En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Aujourd'hui, notre invité est Emmanuel Tréogat, qui a été sélectionneur du Tchad à deux reprises. Une première fois en 2014 et une deuxième en 2019. Dans cette discussion, il nous explique son parcours atypique et comment il est arrivé à la tête d'une des 210 sélections au monde. Le Tchad, ce pays situé au cœur de l'Afrique, qui n'a aucun accès à la mer. Sa superficie est deux fois supérieure à celle de la France, pour seulement 16 millions d'habitants. Mais le climat y est particulièrement désertique, et la vie difficile. Emmanuel nous raconte sa vie à N'Djamena, la capitale, nous délivre quelques anecdotes hors du commun, et nous dresse un panorama complet, parfois cruel, de la situation du football au Tchad. Bonne écoute! Bonjour Emmanuel, comment
Bonjour.
Vas-tu?
Très bien, merci, ça va bien.
Ouais, je suis très content de te recevoir aujourd'hui.
Moi aussi, hein, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de sa passion.
Exactement, bon, on va prendre un peu de temps aujourd'hui, parce qu'on a le temps, de discuter de toi, de ta vie, de ta carrière et de ton expérience au Tchad. Voilà, le mot est dit, on va parler du Tchad aujourd'hui.
Vaste sujet.
Ouais. Mais est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Oui, donc Emmanuel Tréogat, entraîneur de football, c'est mon métier. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'ai été diplômé du BE2, brevet d'état d'éducateur sportif deuxième degré en 1989. Je n'avais pas encore 27 ans, et puis, mais déjà depuis l'âge de 17-18 ans, j'entraînais dans mon club à Deauville les petits, parce que voilà, j'étais passionné par ça. Et donc tout au fil de ma vie, c'est le métier d'entraîneur qui a dicté mes choix de région, mes choix de vie, et puis parfois être obligé de faire des emplois à côté, parce que au niveau régional, parfois on peut pas vivre du football, donc on fait d'autres métiers. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Mais mon métier, c'est entraîneur de football.
Et si on commence un peu du début, tu viens d'où?
Ouais, alors moi je suis de Deauville, oui. Donc la plus belle ville du monde. Et donc je suis Deauvillé. Une carrière de footballeur d'un bon niveau national, hein, des divisions 3, division 4, pendant. Je dois avoir à peu près 300 matchs à ce niveau-là. Avec une carrière en sport-études, les sélections de ligue, un peu le cursus, voilà. Et puis après, pas les qualités ou le mental pour être professionnel, et puis aussi un grand attachement à mes amis, à ma ville de Deauville, et donc ma carrière au départ de joueur s'est faite là-bas, Deauville, Lisieux, donc au niveau national, et c'était vraiment très intéressant. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours été entraîneur, éducateur, en fonction du nom qu'on peut donner, mais ça a toujours été donc ma passion, et puis toute ma vie, j'ai continué à me former et puis à vivre des aventures différentes, mais toutes enrichissantes et humainement surtout très intéressantes.
Et tu m'expliquais que des fois, c'était le foot qui te poussait à changer de région, et des fois, c'était même des décisions ou des décisions, des choix de ta famille qui te poussaient à aller dans une région et de trouver des opportunités dans cette région.
Oui, tout à fait. Ouais. Parfois, alors, par exemple, ma première expérience d'entraîneur, je l'ai vécue à Marmande dans le sud-ouest. Donc, au départ, je devais y aller comme joueur. Et puis, j'avais répondu à une annonce sur France Football. À l'époque, il y avait des annonces. Et puis, une fois arrivé là-bas, je prends mes décisions très, très vite. Donc, en 3 jours, on avait trouvé la maison, même, parce que là-bas, c'était une maison, l'emploi à la mairie. Et puis, j'étais devenu entraîneur, parce que l'entraîneur qui avait fait monter le club voulait arrêter et rester joueur. Et on est resté 3 ans là-bas. Après, à chaque fois, on revenait un peu en Normandie parce que ça nous manquait. Et puis, la maman de mes enfants a ensuite été mutée dans le sud-est à Saint-Tropez. Donc, ça va, il y a pire. Et donc, on a vécu 6 ans là-bas. Et là, une fois là-bas, c'est là que j'ai trouvé aussi, par rapport. Alors, à chaque fois, j'avais un CV quand même intéressant comme joueur et ensuite comme entraîneur. Donc, j'ai jamais eu de difficulté pour trouver des clubs. Et puis, moi, je ne suis pas du tout carriériste. Donc, même avec la maman de mes enfants, j'étais pas marié. Donc, le jour où ça se passe moins bien, on change. Et dans les clubs, c'était exactement pareil. Moi, je répondais plus à l'affect, à des projets humains avec un président. Quand on n'avait plus la même façon de voir les choses, je changeais de club. C'est pour ça que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs en tant qu'entraîneur.
Ouais.
C'est pas cette. Parce qu'après, on peut avoir. Tu t'en fous un peu de cette étiquette du baroudeur ou de celui qui change trop
Complètement.
facilement de club.
Non, non, je m'en fiche complètement parce que, comme je te disais, moi, je ne suis pas carriériste. Donc, voilà, si je suis bien, je reste. Si je ne suis pas bien, je peux pas. Je ne suis pas carriériste et je ne suis pas fonctionnaire. C'est-à-dire que ce que je vais gagner, je m'en fiche. Et le jour où ça. Ce n'est pas l'argent qui va dicter mes choix. Et le jour où ça ne va pas, bah, tu vois, pour te donner un exemple, ma première expérience d'entraîneur. Donc en fait le club parfait et la mairie, mon chef de service, mon directeur des sports. En fait moi j'étais rentré dans une mairie comme moniteur de sport avec un projet d'une création d'un office municipal des sports, un OMS, dont je devais avoir la responsabilité. Et en fait mon chef de service, qui était le responsable des sports, était l'entraîneur du rugby et avait moins de diplômes que moi et bah, était jaloux. Donc il m'a vraiment mis des bâtons dans les roues. Donc au bout de 6 mois j'ai démissionné de la mairie. Et je me suis retrouvé avec juste un défraiement au niveau du foot et rien à côté. Donc j'ai monté une agence de pub. Donc voilà. Et puis à chaque fois, ça a été comme ça. Quand je ne pouvais pas vivre du football, bah, j'avais d'autres sources. J'ai dirigé un site de location dans l'immobilier. Pendant 3 ans, j'ai monté une. Bah, je travaillais. Bah, je travaillais. Je dirigeais, parce que c'était à moi, un restaurant snack sur une plage naturiste. Mais vraiment des choses extraordinaires et complètement différentes. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait de la surveillance d'examen, j'ai travaillé pour Sciences Po, j'ai travaillé. Bon, vraiment, voilà, et c'est génial parce que je me suis jamais ennuyé. Et puis, alors parfois, il y a eu des choix où on s'est dit, bon, bah, peut-être on aurait pu faire autrement, mais j'ai jamais rien regretté.
Ouais, t'es toujours allé de l'avant,
Ouais. Et puis,
c'est génial.
bon, regretter, ça sert pas à grand-chose parce que de toute façon, une fois que tu l'as fait, même si parfois, bah, comme je te dis, la décision, c'est pas forcément la meilleure que tu peux prendre, ou bah, parfois, ça te met un peu dans l'embarras, surtout financièrement, parce que des fois, quand tu arrêtes un club et que bah voilà, tu te retrouves sans ressources, c'est pas évident. Quand je suis rentré du Tchad la première fois, bah, j'ai pas travaillé pendant. Parce que je suis arrivé. Mon contrat s'était arrêté en octobre, donc bah, jusqu'à juin, c'est compliqué. En plus, j'ai
Alors
habité
quasiment une
Nancy.
année.
En plus, ouais, j'ai habité Nancy, parce que ma compagne donc, avait été mutée à Nancy de Paris. Donc, on ne savait pas pour combien de temps exactement on était là-bas et tout. Donc, bah, j'ai écrit un livre. Donc, voilà. Alors que ce n'était pas mon métier, mais bon, j'ai. Alors, bon, sans prétention, mais bon. C'était un.
Et bah, tant qu'à faire, de toute façon, je voulais en parler. Donc, oui, tu as écrit un livre après
Ouais.
ta première expérience au Tchad. Donc, après,
Ouais.
on va y venir à ton expérience, mais on peut parler de ton livre.
Ouais, bah en fait, l'idée, elle est venue d'un ami à moi qui est journaliste, qui s'appelle Franck Simon, qui est S-Afrique. C'est vraiment. Il travaille pour France Football. Bon, c'est vraiment quelqu'un d'hyper compétent. Il m'a aidé beaucoup au début parce que quand je suis arrivé, bah, le Tchad, il y avait zéro archive. Donc, j'avais pas de feuille de match. Je ne connaissais pas les joueurs. Donc, il m'a beaucoup aidé. Et puis. Bon, déjà, la première chose, c'est que quand je suis arrivé au Tchad, bon, parce qu'on parle du Tchad, mais juste, je suis descendu de l'avion. Le lendemain, je suis arrivé dans la ville. Je me suis dit, ouais, je vais écrire un livre, c'est
Tu
obligatoire.
savais.
Ouais.
On revient au début. Donc, tu étais après ton expérience à Saint-Tropez, tu retournes en France, à Paris.
Suite à un changement de vie personnelle, je suis venu à Paris et donc alors toujours pareil, j'ai un gros réseau, pas mal d'amis, de connaissances. Et là, j'avais un ami qui prenait le Red Star en national, donc mais qui n'avait pas le diplôme. Et donc je suis venu pour couvrir et comme adjoint. Et donc je suis resté un an. Bon, lui s'est fait virer avant moi, mais bon, voilà. Peut-être que dans d'autres conditions, lui étant viré, je serais parti aussi, voilà, sans être viré. Mais là, vu comment ça s'était passé, bah, moi, je suis resté et je suis resté un an. Et à l'époque, donc, j'étais tuteur de Steve Marley, donc, qui est international et tout. On travaillait ensemble et tout. On était bon, lui, il était juste joueur encore. Et à la fin de la saison, bah, le club a pris une décision de dire à l'entraîneur qui était Vincent Ducanti, bah, tu n'auras qu'un adjoint. Donc entre Steve Marley, qui était son ami, qui était Steve Marley et moi, donc le club a voulu me garder, mais pour d'autres fonctions et surtout sans contrat. Donc j'ai pas accepté. Et donc je suis parti au Racing. Donc là j'ai pris les 19 nationaux et avec un adjoint, on s'est fait un kiff, on s'est fait une grosse équipe et on a fini 8e en national, donc club amateur, c'était intéressant, mais surtout un quart de finale de Gambard perdu contre le PSG, de Kingsley Coman, de Maignan, de plein d'Ikoné, bon, vraiment beaucoup de joueurs de grosses équipes. On avait perdu 1-0 chez nous. Et voilà, et après, je suis parti au PFC bon, pendant un certain temps, et c'est là que j'ai été contacté.
Et donc là, le Tchad, parce que là, c'est ma première question, comment ça peut arriver,
une demande du Tchad dans une vie, en fait. Ouais, c'est exceptionnel. En fait, à l'époque, je travaillais avec un adjoint qui s'appelle Mehdi Soufiane. Et en fait, c'était un jeune qui débutait et que j'avais rencontré à Clairefontaine sur un stage de futsal. Parce que moi, je suis passionné de futsal. Okay. Et donc, voilà, on s'était retrouvés dans la même chambre pendant 3 jours. On avait discuté. Et puis après, quand j'étais au Red Star, donc c'est depuis la première année, il venait avec moi et puis il venait voir mes séances. On faisait des matchs amicaux contre son club. Il avait un petit club et tout. Et puis, quand je suis parti au Racing, il est venu avec moi. Et c'est avec lui qu'on s'est fait un kiff de faire une grosse équipe. Et quand je suis parti au PFC, il est venu avec moi. Et en fait, il avait un ami qui était agent, organisateur de matchs, agent et tout, et qui était mandaté par la fédération tchadienne pour trouver un sélectionneur. Okay. Parce que ils n'étaient pas contents de voilà. Ils avaient un deuxième vice-président de Fédé qui travaillait aussi au ministère, qui s'était dit voilà, les autres pays prennent des sélectionneurs étrangers, nous on prend que des Tchadiens ou des Africains, ça marche pas. On va essayer une autre voie. Il faut savoir que le Tchad n'avait jamais rien gagné, c'est-à-dire aucune compétition, et que quand ils étaient inscrits à des phases éliminatoires, ils n'allaient jamais dans les phases de groupe, sauf si ça commençait par la phase de groupe. C'est-à-dire que s'il y avait des tours préliminaires avant, ils passaient jamais les tours préliminaires. Donc suite à ça, l'agent m'a contacté en me disant voilà, je suis mandaté par une fédération, je connais ton profil, donc moi j'ai une réputation de formateur. Et puis moi je suis un entraîneur à l'affect, donc c'était vraiment ça passait super bien. Et puis tous ces joueurs, donc en plus c'était à l'époque c'était avec des jeunes, donc c'était des joueurs qui voulaient être professionnels, qui étaient morts de faim, donc c'était vraiment intéressant. Donc on s'est rencontrés à Paris, et puis avec la personne, le délégué là, le vice-président de la Fédé, on a discuté, et le projet me paraissait intéressant. Et puis alors sans que c'est flatter mon ego, mais il y a 213 sélectionneurs dans le monde. Ouais. Donc me dire, moi qui arrivais du niveau amateur, n'ayant pas été professionnel en tant que joueur, n'ayant pas encore les diplômes pour entraîner une équipe professionnelle, et d'ailleurs je les ai toujours pas parce que je les ai pas passés, je me suis dit ouais, c'est quand même une expérience. Et puis l'Afrique je connais pas, et puis donc voilà, toutes ces petites raisons ont fait que j'ai dit ok, mais donc je connais pas, donc je vais venir au Tchad et je vais faire un audit
sans avoir signé de contrat.
Ouais, exactement. Et sauf que pour eux l'audit, en fait, je suis arrivé. On est arrivé un dimanche et on repartait le jeudi.
T'es allé tout seul, toi, d'ici?
Alors, je suis arrivé avec l'agent est venu avec moi. Okay. Et en fait, il avait un associé qui était tchadien. Okay. Et donc, qui est le cousin d'MC Solar, parce que MC Solar est tchadien. Okay. Donc voilà. Et donc suite à ça, je me suis dit ouais, c'est intéressant, mais bon, il y a vraiment beaucoup de travail. Sauf que pour eux, en fait. Bon, ils avaient une shortlist et une fois qu'ils ont discuté avec moi, ils m'ont vu, au bout de 2 jours, dans leur tête, c'était moi le sélectionneur. Mais moi, non. Donc, c'était compliqué parce que le premier jour, il y avait conférence de presse. Le deuxième jour, je passais à la télé. Et les questions, c'était quel est votre plan d'action? Et je leur disais, mon plan d'action, c'est déjà de savoir si je vais accepter le poste. Parce que c'est... Et donc, au bout de... Moi, je suis quelqu'un qui ne dort pas énormément. Et la journée, je notais tout. J'avais plein de rendez-vous. Je regardais comment ça se passait et tout. Et puis... quand je rentrais à l'hôtel le soir, je mettais tout par écrit et en fait je leur ai fait un dossier et quand je suis parti le jeudi, je leur ai remis le dossier et puis je leur ai dit bon, c'est ok.
Ok. Donc, t'es parti déjà en disant ok.
Ouais, je leur ai dit c'est ok.
Ils t'ont eu?
Ouais, ils m'ont eu. Non, mais je suis ravi, ouais, hein, je suis vraiment ravi. Mais c'est vrai que, alors si c'était à refaire, je ferais de la même façon, hein, mais c'est un peuple qui va très vite et très lentement. C'est-à-dire que sur ces décisions-là, ça a été rapide. Mais bon, après, pour faire avancer les choses, c'est un peu compliqué.
Et là, tu étais ta famille, là, n'a pensé quoi quand tu leur as dit, OK, là, quand tu étais de retour en France, tu as dit, là, je vais repartir.
Ouais, non, ça a été un peu compliqué, et puis c'était un peu de ma faute. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des échanges par mail, mais bon, alors, j'avais eu un ou deux projets avant, donc j'étais en période de nouvelle vie, donc on était en 2014, ça faisait que 3 ans que. Ouais, moi, ça faisait 2 ans et demi que je vivais avec ma nouvelle compagne, parce qu'au début, ça a été un peu long. Donc, j'avais eu 2-3 projets qui avaient capoté et tout. Donc là, je me suis dit, bon, avant d'en parler...
Ouais, avance vraiment.
Voilà, j'avance, on va voir ce que je peux proposer et tout. Sauf que...
T'as trop avancé.
Non, ouais, et puis aussi, je suis un peu naïf, je ne fais pas très attention. Et en fait, j'avais des échanges de mails et mon ordinateur était tout le temps ouvert. Et donc, en fait, elle a découvert sur l'ordinateur que j'avais un rendez-vous pour partir au Tchad. Donc, bon, ça avait mis un peu mais bon, voilà, mais bon, comme c'est une femme qui est très intelligente et qui est, voilà, et puis bon, c'est vraiment génial. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre sa passion malgré tout. Et puis, donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Mais par contre, la première fois où je suis revenu sur mon bureau, j'avais un article d'un dirigeant tchadien qui s'était fait assassiner voilà, juste avant que j'y aille. Mais bon, c'était passé dans les journaux après, parce qu'elle avait cherché sur Internet et tout, en me disant, voilà, regarde, faire ouais. attention quand même. Donc, ouais.
Parce que toi, ouais. tu connaissais quoi du pays ?
Rien du tout. Rien. Alors déjà, l'Afrique, je ne connaissais pas. Mm. Puis moi, je ne suis pas aventurier. Donc, faire des road trips, des choses comme ça, bon...
Ça, c'est intéressant.
C'est...
Tu dis que tu n'es pas aventurier, non. Tu acceptes une proposition au Tchad.
Exactement. Non, mais c'est fou, parce que les gens m'ont dit, mais comment t'es... Même après, parce que quand lui le dit, je me dis, mais c'est pas possible que tu aies vécu tout ça. Et je dis, si. Et puis en plus, rien n'est romancé, tout est vraiment... Voilà, moi, c'était factuel, tout ce que je disais et tout, donc... bon, souvent je donnais mon avis aussi, mais c'était vraiment factuel, c'était vraiment. Et donc je suis rentré et puis bon, elle m'a dit OK, banco, on y va, vas-y.
Vas-y, c'est et ça. Puis, voilà. Toi, c'était tout seul.
Ouais, Par contre, elle a un travail qui peut pas faire qu'elle bouge. En plus, à l'époque, on avait des enfants qui étaient, parce qu'on a 2 enfants chacun.
Okay.
Donc moi, les miens sont restés. Il y en a un qui est venu un peu avec moi à Paris, puis après qui était parti au centre de formation à Valenciennes, puis qu'après, bon, à 19 ans, il est reparti chez sa maman à Deauville. Mais voilà. Mais par contre, elle avait un fils qui est un peu plus jeune, donc qui était avec nous et tout.
Okay.
Donc bon, de toute façon, c'était impossible qu'elle parte. En revanche, donc par rapport à ça, elle m'a dit, bon voilà, on fait attention, le contrat, bon, c'est une juriste, c'est une financière, okay. Donc bon, on a fait un contrat quand même, voilà, donc au niveau salaire, j'ai même pas discuté, parce que quand j'avais rencontré, ils m'ont dit, voilà, nous on attend, mais on pourra pas plus, mais bon, c'était plus que ce que je gagnais en France, donc, et puis comme je disais tout à l'heure, le financier, bon, c'était, alors oui, j'y serais pas allé pour zéro, parce que mais... je suis pas humanitaire non plus, mais même si, même les humanitaires, ils y vont pas pour zéro, mais bon, mais par rapport à ça, je me suis dit, bon, voilà, ça va durer un an et demi, par contre, il y avait une condition, c'est que je restais 3 semaines là-bas et je rentrais une semaine, 10 jours okay. chez moi.
Tous les 3 semaines, tu rentrais.
À peu près, ouais, 3 semaines.
Alors, et ça, tu l'as fait.
C'est ce qui est. Alors, j'ai même fait plus. Mais c'est ce qui était prévu. Après, dans le contrat de travail, il y avait plein de choses. Il y avait une villa, il y avait évidemment tout ce qui était législation, impôts, tout ça. Bon voilà, tout était pris en charge là-bas, les soins médicaux, tout ça. Ça, j'ai jamais eu de problème. Par contre, j'ai jamais eu une maison. Donc, j'étais à l'hôtel. Et comme il faut savoir qu'il n'y avait pas énormément de compétition, je leur coûtais moins cher à être en France. Donc, des fois, j'étais 2 mois en France.
Ah, OK. Et ça m'intéresse toujours de savoir, toi, quand tu es retourné au Tchad vraiment avec ton contrat, et au bout de combien de temps tu étais sur le terrain de foot avec, avec ton équipe
aussitôt.
Aussitôt.
Ouais, aussitôt. Parce
ça,
que...
c'est fou. Je trouve que c'est un métier bizarre où tu arrives le jour même ou de le
lendemain.
Ah
oui, oui, oui. Non,
c'est déjà avec tes joueurs. Non, mais tu connais pas.
Ouais, aussitôt. Alors, en fait, il y avait deux choses. Donc c'était au mois, alors parfois je me trompe un peu au niveau des dates parce que ça se chevauche un peu, mais donc j'y suis allé une première fois en février, et mon contrat a commencé en mars, et donc ça devait être fin mars je crois, on a fait un match amical au Qatar contre le Yémen, parce que bon, il faut savoir que les pays du Moyen-Orient invitent parfois les pays africains, bon voilà, ils ont beaucoup d'argent mais ils ont vraiment beaucoup de compassion avec l'Afrique, alors peut-être ils y trouvent des intérêts, hein, mais sans doute. Mais bon, voilà, au moins on peut profiter de ça. Donc on a.
C'est eux qui invitent tout.
Ouais.
Ils invitent les délégations.
Ouais. Donc nous, on y a été et c'était contre le Yémen, mais le Yémen, on pouvait pas jouer là-bas parce que c'était c'était compliqué au niveau de la situation géopolitique à l'intérieur. Donc c'était le Qatar qui organisait et on est resté 6 jours au Qatar, tout payé et tout. Et c'est là que j'ai connu mes joueurs.
Et qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, si t'en rappelles, tu leur dis quoi quand tu as ces 23 joueurs devant toi que tu connais pas et tu dis allez,
Alors,
on commence l'aventure?
ouais, alors ce qui a été en plus exceptionnel, c'est que eux, ils sont arrivés en pleine nuit. Moi, j'étais arrivé la veille et eux, ils sont arrivés après moi, ils sont arrivés en pleine nuit. Donc, quand ils sont arrivés, je savais à quelle heure ils arrivaient, je me suis levé, donc il devait être 3h ou 4h du matin, et je suis allé les accueillir. Et le lendemain matin, ben, on a fait la première réunion, les premiers, et les premiers, le premier entraînement, en fait, dans la foulée. Donc, ça, c'était génial. Et après ce match-là où on a fait 0-0 contre le Yémen, c'était vraiment bien. Et donc après, donc je suis reparti en France et je suis retourné aussitôt. Et il y avait les phases de qualification U20. Et donc, on jouait contre la Libye.
Parce que tu étais le sélectionneur U20 aussi.
Alors moi, quand je fais quelque part, je veux tout maîtriser.
Ouais.
Donc, sans être le sélectionneur. Et donc, il y avait deux entraîneurs, un entraîneur de gardien et un entraîneur qui étaient les responsables. Mais voilà, j'étais avec eux, je leur faisais voir. Et en fait, c'est ce staff-là que j'ai pris après avec moi.
Ok.
Parce que je m'entendais vraiment bien avec eux. Bon, on s'est fait éliminer contre la Libye. Mais pareil, les U20. Alors, il faut savoir qu'au Tchad, tu as un championnat... comment dire, senior qui est très moyen et pas tout le temps, d'accord? Mais il n'y a pas de championnat de jeunes. C'est-à-dire qu'à 16 ans, les joueurs, ils ont zéro formation avant, ils sont dans des académies, mais bon, voilà. C'est... Et à 16 ans, ils jouent en équipe première. Donc, mais bon, il y avait quand même de la qualité. Et on perd un 0 chez nous en ratant un pénalty à la dernière seconde. Et au match retour, on perd 3-0 avec 3-0 avec deux buts en jeu. Mais quand je dis hors-jeu, c'est... Et quand on dit que l'arbitrage en Afrique, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Ah ouais, quand tu reçois, c'est vraiment
un avantage.
Ouais, un gros avantage. Normalement. Normalement.
Et donc, ouais, tu disais un peu le championnat. Comment ça se passe, le championnat
Alors,
tchadien?
En fait, le Tchad, c'est un pays qui est très, très, très grand. Tu as 15 millions d'habitants, mais ça fait, je sais pas, 3, 4, 5 fois la France. 4, ouais. Donc, c'est énorme. Et il n'y a pas de route. Voilà,
il y a une partie de
très
désert,
peu de
du Sahara.
Ouais,
ou
il y a beaucoup. Ouais. En fait, la capitale, N'Djamena, est au milieu. Mmh. Et après, bah, quand tu montes au nord, tu es en, comment on appelle ça, en frontière avec le Soudan à droite, avec la Libye. Après, tu as le Cameroun. Bon, voilà, en plus, bon, pas des pays...
Centrafrique dans le
hyper,
sud.
Centrafrique aussi, ouais. Mmh. Pas des pays hyper, hyper faciles. Il y a eu la guerre avec la Centrafrique. Alors, je ne vais pas dire un pourcentage, mais tu as beaucoup de Soudanais qui sont tchadiens, mais qui sont maintenant Soudanais. Toi, c'est assez compliqué. Bon, la Libye, avec le désert et tout ce qui se passe.
Et la particularité aussi du Tchad, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la mer.
Exactement. Mmh. Et c'est vraiment un gros désavantage. Mmh. C'est très compliqué parce que au niveau commercial, tout passe par le Cameroun, tout
c'est
passe
ça.
Par tout passe par
Douala
et pays. Ouais, au niveau des taxes et tout ça, bon, c'est assez compliqué. Et donc au niveau du championnat, ils sont obligés de faire des championnats régionaux. C'est-à-dire que des championnats zonaux, on va dire. Donc tu as un championnat sur N'Djamena, un autre championnat et tout, et après ils font des phases finales. Le champion est toujours de N'Djamena. Donc, je crois que dans l'histoire, parce que en fait, le Tchad est indépendant depuis 63, et donc c'est là que le foot a un peu commencé, mais avec un premier match international contre le Dahomey, c'est le Bénin maintenant.
Ouais.
Et à l'époque, c'était le Dahomey, ils avaient perdu 6-2. Et donc, toi, il y a jamais eu vraiment. Ce qui leur manque, en fait, c'est de l'organisation. Mais le problème, c'est que tu connais le film Un jour sans fin,
ouais.
Et c'est ça. C'est-à-dire que les erreurs qu'ils ont fait il y a 4 ans, il les renouvelle en ce moment. Toi. Et donc voilà, donc le championnat est très très moyen. Et donc, comment dire, les joueurs, les meilleurs joueurs viennent jouer à N'Djamena. Donc la plupart des internationaux, pour ne pas dire tous, moi au début j'avais zéro joueur de province dans mon premier contrat, dans mon premier passage, on va dire. Pendant les premiers 18 mois, j'avais zéro joueur extérieur à N'Djamena, sauf les expatriés évidemment. Donc,
et ce qu'on dit sur la qualité des joueurs ivoiriens, ce qu'on dit de la qualité des joueurs africains.
Ouais.
Toi, tu l'as vu tout de suite aussi au Tchad. Il y a cette qualité naturelle ou en tout cas des enfants dans la rue qui jouent au foot.
Ouais,
il y a un Alors, niveau exceptionnel en Afrique en général. Je sais pas en Tchad en particulier.
Exceptionnel, non. Ils ont des qualités, mais on les canalise en arrivant en France. En France, en Europe. Pas spécialement en France, mais parce qu'ils sont quand même beaucoup laissés à eux-mêmes. Et puis, il n'y a pas la base. Un enfant qui commence jeune, plus il va progresser. Donc, jusqu'à 16 ans, Ils n'ont pas de structure. Alors oui, ils sont dans des académies, mais ils n'ont pas un ballon chacun. Il y a pas les terrains, c'est catastrophique. Donc ils ont du mal à progresser.
Il y a des académies bien faites.
Non, parce qu'en fait, la fédération, c'est pas eux qui géraient. Ils donnent un agrément, mais il n'y a pas de championnat, donc ils gèrent pas les académies. Donc n'importe qui peut monter une académie.
Mmh. Et après, ils jouent comment ça se passe
Ils se font des matchs amicaux, ils se font des tournois, ils font beaucoup d'entraînement. Mais alors pareil, il y a l'école, donc il faut les entraînements à 6h du matin, il fait très chaud, il fait nuit tôt, donc
Et il y a ce rêve de jouer, de partir jouer en
Europe. Tous veulent être professionnels, tous veulent jouer en Europe. Quand j'ai fait les détections, ou même dans un premier temps, quand j'ai cherché les joueurs, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de base de données, il n'y a rien du tout. Hein. Même les licences, ils étaient encore à la main. Donc malheureusement, alors que maintenant, avec Internet, tu fais tout. Donc, en fait, moi, les premières sélections, je les ai faites avec Facebook. Avec Internet, Facebook, j'ai trouvé des joueurs un peu partout. Et sur mon premier passage, et là, c'est encore... au tout début, quand je suis arrivé, j'avais 20 joueurs pour faire une équipe. Quand je suis parti, il y en avait une soixantaine, on va dire. Et là, maintenant, après mon deuxième passage, j'avais 150 joueurs pour faire une équipe.
Une base de données de 160 joueurs où tu savais où ils étaient.
Dans les pays, où ils jouaient. Et puis, les Tchadiens, comme tu disais, ils veulent tous partir. Donc, il y en a dans tous les pays.
Hein. Ah ouais.
Juste comme ça, vite fait. Déjà, j'avais été faire une détection en Turquie, là. Mais c'était pour des étudiants, mais qui avaient un bon niveau de football. Donc, il y en a qui venaient de Chypre, de Russie, de. Un peu. Mais là, j'avais réussi à en trouver un en Argentine, en Finlande.
T'as eu deux expériences comme sélection du Tchad, une première de 2014 à 2015, quasiment 2016, et une deuxième là récemment.
Ouais, de 2019 à 2000, de juillet, de août à octobre 2020.
Et il y a une légende du foot tchadien, c'est Jafet Endoram.
Oui, c'est la personne la plus connue. C'est lui qui a vraiment réussi en Europe et qui, s'il n'avait pas été blessé, aurait eu encore même une carrière encore plus importante quand il est parti de Nantes à Monaco. Après, il y en a un que moi, je cite toujours parce que je m'entends super bien avec lui. Et puis, le hasard des choses fait que moi, mon club préféré, c'est Nice. Mmh. Et c'est Toko, Nabatang Toko, qui a été le premier professionnel, qui a été le premier buteur européen du PSG.
Okay.
Du Paris Saint-Germain, qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Valenciennes, qui a joué à Strasbourg, mais qui est surtout passé à Nice. Et ça a été vraiment le premier professionnel. Okay. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, pas la légende, mais c'est vraiment lui qui a lancé le truc. Et après, oui, Jafet Endoram avec Nantes. Donc voilà. Mais ce sont des gens sur lesquels on ne sait pas trop, que le chat ne s'est pas trop appuyé. Jafet Endoram, avant que moi j'arrive, avait travaillé pendant un an. En fait, ils ont créé un centre de formation, on va dire. Moi, on me l'avait vendu comme Clairefontaine, mais il n'y avait pas de terrain de foot. Donc, c'est un peu compliqué. Et Jafet, il était allé, donc, on va dire une académie. Mais ça ne se passait pas bien avec la fédération. Donc, au bout d'un an, il est parti. On en reparlera après, mais là, il a été nommé par le ministère comme président du comité de normalisation, même si je ne sais pas si ce comité va perdurer, puisque le Tchad est suspendu de tout.
Ouais, de toute façon,
on en reparlera après.
Ouais, ok, on y revient après, comme ça on fait le déroulé. Tu disais à l'hôtel à N'Djamena.
Ouais.
Et tu peux nous raconter, toi, comme tu vas voir, on mélange le foot et ce qui se passe en dehors. Et N'Djamena, c'est une ville comment ? C'est une ville pour qu'on la visualise un peu,
c'est assez étendu.
Ouais.
Mais c'est particulier parce que tu as très peu de routes goudronnées, donc tu as quand même des pistes, tu as en plein centre-ville, tu vas avoir le palais du président et tu vas avoir des cases, donc des maisons en tôle, des maisons. Saint-Pie qui est très pauvre. Alors c'est toujours paradoxal parce que Saint-Pie qui a été riche avec le pétrole, mais jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes avec le pétrole. Et puis donc il y a une population quand même qui est assez pauvre, qui est pas mal illettrée. Il y a un illettrisme qui est assez important. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de militaires. Parce que la France est en place là-bas. Il y a une ambassade américaine aussi qui est assez importante. Et puis bah, au niveau des militaires, ouais, parce que c'est le, donc même bah, surtout maintenant, bah, toujours pareil, mais bah, moins, parce qu'à l'époque, moi quand j'y étais, il y a eu un attentat sur le marché, il y a eu l'attaque de l'école de gendarmerie qui était à 300 mètres de mon hôtel, bon, des choses comme ça. Après, les militaires, on sait qu'ils sont là, mais bon, t'en as qui sont civils, c'est pas pesant, toi, donc t'as beaucoup de militaires tchadiens aussi, mais. En fait, ils ont des uniformes, donc tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas. Bon, voilà, c'est pas. Mais c'est un pays qui est assez dur quand même, mais qui est hyper accueillant.
Ouais.
C'est chaleureux, c'est. Les gens sont d'une gentillesse. Les supporters, bah, ils vivent que pour le foot. Ils vont, bah, ils ont rien d'autre à faire, donc c'est vraiment ils travaillent et ils viennent au stade, hein, donc.
Et c'est comment? Donc ouais, quand le championnat a lieu ou quand vous jouez
alors,
la sélection.
Le championnat, il n'y a pas énormément de monde.
Non, c'est pas une folie.
Non, il y a 500 personnes, 1000 personnes okay. maximum. Par contre, en sélection, c'est un truc de fou. Le premier match qu'on a fait, donc match aller-retour, donc éliminatoire de la CAN, donc c'était la CAN 2015. Donc match aller-retour, on tombe le Malawi. Et le Malawi, c'était à l'époque, c'était une belle équipe parce que c'était une génération qui s'était entraînée pendant plusieurs années ensemble. Ils avaient fait une académie, ils étaient tous au truc et tout. Et c'était vraiment une belle équipe. Et donc au match aller, on perd 2-0 là-bas, on tire sur le poteau, on peut prendre 4-0 comme on peut faire 2-2. Donc tu te dis, bon, on fait une préparation d'enfer, je travaille à la vidéo, je leur fais voir des trucs ou des matchs, alors des vieux matchs, mais quand Saint-Etienne, contre Dynamo Kiev, en plus moi j'étais au match, le match retour en Coupe d'Europe, en fait ils perdent 2-0 là-bas, ils gagnent 3-0 chez eux.
Il n'y a pas très longtemps, il est passé à la tête.
Ouais, l'équipe de France contre l'Ukraine, ou toi, et vraiment des
remontées.
Des remontées et des moments où il y a communion avec le public, surtout ouais. qu'à l'époque de Saint-Etienne, les gens ils envahissent le terrain, toi, c'était pas comme maintenant en France. Et bon voilà, et donc on fait mais vraiment une préparation, mais un truc de malade. Et on est avec mon adjoint, donc alors j'avais deux adjoints, donc j'avais Mehdi qui est venu avec moi, que j'ai pris comme adjoint, et un autre qui s'appelle Nicolas. Mais le truc, c'est qu'ils n'avaient pas de contrat, donc c'était des piges, c'était des, voilà, des vacations, compliqué. Donc c'était compliqué pour les faire venir. Mais là, je réussis à les avoir. Donc le match commence. 10 minutes, 1-0, 20 minutes.
Attends, un stade de combien?
Ah ouais, donc là aussi, on est à l'hôtel à, je sais pas, à les 2 km. Les gens, ils viennent nous chercher en scooter, ils nous accompagnent, les drapeaux, les gens peinturlurés et tout, la couleur du pays, mais vraiment, waouh, tu te dis. Et le matin, on jouait à 15h, le matin, le stade, il est plein, il ouvre à 11h, à midi, c'est plein. Bon. Et puis, avec Nicolas, on va sur le terrain et. Quand on arrive sur la pelouse, c'est un vieux synthé, toi, mais bon, mais tu te dis, waouh, le monde, mais c'est un truc de malade. Choqué. En fait, le stade, j'ai jamais su exactement combien il faisait de spectateurs. Je pense qu'il doit faire 17, 18 000, 20 000 peut-être maxi, mais il y avait 25 000. C'était un truc de malade. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Ouais, bon, voilà. Donc en plus, le match, ça se passe bien, 0, 2-0, 3-0 au bout d'une demi-heure. Ah. Ah ouais, mais tu te dis, ouais, il pourrait nous arriver. Les autres, ils étaient à la rue. C'était... Tu te dis, ouais, c'est... puis t'es à la mi-temps, tu es qualifié. Et puis, sauf que, bah, y a un moment où tout se passe pas comme tu as envie. On rentre dans le vestiaire, donc je rentre le premier. Moi, je rentre toujours le premier dans le vestiaire.
Okay.
Et je vois mon sac sur la table, alors que moi, je mets toujours mon sac. On a une table de massage, et où toi, puis bon, tu as le tableau. Tout, et là, je vois mon sac sur la table, je dis, ouais, il s'est passé quelque chose. Et les joueurs, ils rentrent et tout. Ils me disent, coach, on m'a piqué mes affaires, j'ai plus ça. Et en fait, on s'était fait cambrioler notre vestiaire chez nous. Heureusement, moi, j'avais mon ordi, tout. Moi, on m'a rien piqué, beaucoup de chance. Mais j'ai des joueurs qui se sont piqués leur téléphone, de l'argent, tout.
Incroyable.
Tout.
La mi-temps chez vous.
Mais c'est un beaucoup d'incidence parce que bah, déjà, pendant ta mi-temps, tu as tous les militaires qui rentrent et tout. Chacun veut savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on avait des militaires qui gardaient les vestiaires normalement. Et donc, tu ne peux pas parler de football. Tu as tout le monde, tu as de la police, tu sais plus quoi faire. Et donc, bon, à la fin, ça se calme un peu. Pendant 2 minutes, tu dis, bon, les gars, allez, on pense au match, machin, truc, on est qualifié, tout ça. Et j'ai un joueur, mais c'est un truc de fou. J'ai un joueur, je vais perdre le nom, bonsoir, ça va me revenir, formé à Lille, 12 matchs de Ligue 1 avec Dijon, toi, vraiment un bon joueur. Sauf que quand je le prends, donc sur le match aller, il est blessé. Et sur le match retour, parce que tu avais 2 semaines entre entre les deux matchs, tu sais. Et sur le match retour, parce que là, des fois, c'est entre les matchs, c'est en bac, par exemple, il y a 2 matchs en 5 jours. Bon, là, il y avait une dizaine, 10-15 jours. Et sur le match retour, je le prends, sauf première fois qu'il vient en Afrique et tout. Et il fait n'importe quoi, il mange des crudités. Donc, malade. Bon, voilà, donc il ne s'entraîne pas beaucoup, donc je le mets sur le banc. Ok, bon, c'est un peu embêtant. Et Et mais il devait rentrer, toi, dès que. Donc à la mi-temps, je me dis tranquille, il va rentrer, c'est un milieu de terrain, il va garder le ballon et tout. Et il me dit non, moi, coach, je ne rentre pas. J'ai dit comment ça, tu ne rentres pas? Il me dit non, on m'a volé mon iPad, il y avait toutes les photos de mes enfants et tout, moi, je ne veux pas jouer. Donc je ne l'ai pas fait jouer. Et bon, voilà, donc tu reprends la deuxième mi-temps et tu vois que, et tu vois que tu n'y es plus du tout, toi. Tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, bon, tu joues quand même, mais. Et on prend un but, donc au bout d'un quart d'heure. Donc tu gagnes 3-1. Bon,
ah, t'es éliminé là.
T'as plus qu'un but à mettre quand même. Toi, t'es éliminé, mais il te reste 30 minutes, toi. Et un autre truc aussi qui s'était passé la veille. Mais bon, c'est vraiment le match où t'as beaucoup de choses, parce que c'est le premier, c'est plein de choses. Et en fait, t'avais la veille du match, t'as le. Je vois les deux vice-présidents qui parlent avec mon capitaine. Et. Je me dis, c'est bizarre et tout, donc je vais le voir. Et en fait, moi, je gère tout. C'est-à-dire que, par exemple, les joueurs qui parlent à la presse, c'est moi qui décide. Toi, c'est un peu voilà, celui qui veut tout faire, mais voilà, ça évite beaucoup de problèmes. Et donc, je vais le voir. Je dis, mais Hilaire, c'est quoi ça et tout? Il me dit, non, mais c'est parce que les joueurs, les vice-présidents, ils veulent nous voir ce soir et tout. Je dis, OK, mais nous, on est là. Avec le staff, on est là. Et il me dit, OK, non, il n'y a pas de souci et tout. Et les mecs, ils commencent à parler en disant « Bon, voilà, vous inquiétez pas, on a fait ce qu'il faut au niveau de l'arbitre, voilà, vous pouvez tomber, vous pouvez ci, vous pouvez ça. » Et donc, je suis avec mes agents, je leur dis « Mais c'est quoi, ça ?» Ils me disent « Bah, ouais, malheureusement, c'est l'Afrique, donc ils vont donner quelque chose à l'arbitre. » Ok, moi, je dis « Voilà, bah, moi, je suis pas au courant. Voilà, je... voilà, moi, c'est pas mon truc, je suis pas au courant. » Et dans le match, par contre, ça se voit pas du tout. C'est-à-dire que les buts qu'on marque, c'est toi, t'as pas de pénalty, t'as pas de, c'est vraiment des beaux buts, c'est vraiment des belles actions. On est vraiment au dessus, toi. Et puis sauf que, bah, au fur et à mesure que tu marques pas, bah, les joueurs ils se rappellent de ça. Donc ils commencent à tomber n'importe comment dans la surface. Ils
Là, tu t'es rappelé.
Je me suis dit putain non. Et donc ça a pourri un peu le match. T'avais des officiels qui étaient dans la tribune, qui essayaient de passer par un de mes coachs pour dire des trucs.
Mais c'était un match où il y avait tout, il y a tout dans ce match.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Entre puis un ascenseur émotionnel terrible, toi.
Et le public qui était là.
Et en plus, à la fin, dans les 5 dernières minutes, on tire 2 fois la barre. Mais à la fin, t'es éliminé. Mais tu te dis, t'es éliminé, mais t'avais l'impression que t'avais quand même gagné. Bah, quelque chose, parce que tu as gagné le match, bien sûr, mais ils n'avaient jamais gagné 3-0 en une demi-heure, ils n'avaient jamais gagné 3-0 à la mi-temps. Le Malawi, ça faisait 2 fois, 3 fois qu'ils les éliminaient, mais ils ne les avaient pas battus. Toi, bon. Et le soir, tu es avec des officiels, des gens qui viennent manger avec toi, et tout le monde est content. Et sauf que bah, après, la suite, c'était des choses très bien et des choses où tu. Toi, le problème, c'est que tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière, et des fois, tu dis, ouais, ça va bien avancer, tu fais des plans, et puis après, pendant 2 mois, ils te laissent chez toi parce que. Parce que voilà, après, tu n'as toujours pas de maison. Parce qu'en fait, moi, j'avais dit, voilà, je veux une maison comme ça, comme ça, comme ça.
Ouais, bien
comme
situé,
ça.
Ouais.
Avec le staff, ils viennent, on est tous dans la maison, on travaille ensemble. Et sauf que la maison, bah, je l'ai visitée, je l'ai choisie, je l'ai meublée avec le propriétaire, mais je ne l'ai jamais habitée. Et après, ils s'en sont servis, eux, pour des lieux de lupanard.
De
lupanard. Comment dire, de rencontres avec des prostituées, machin.
Ah, okay.
Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et c'était la maison du sélectionneur.
Et comment ça se passait là? Parce qu'il y avait des aides de la FIFA à ce moment-là, ouais, en 2014.
Ouais, c'était compliqué parce que, en fait, comme je te disais, c'est un pays de corruption. Bah, alors, c'est toujours difficile quand on parle de sujet-là parce que
ouais.
Tu as toujours l'impression de dire ouais, ils sont tous pourris, machin. Donc, pas tous, mais c'est quand même un pays de corruption. Et bah moi, quand j'avais dit que j'allais entraîner en Afrique, on m'avait dit voilà, si tu demandes 100, si tu as 60, c'est bien. Voilà. Mais pas forcément le salaire, hein, mais tout, voilà, quand tu as besoin de quelque chose. Et sauf que là, bah, et en fait, bah, l'argent, tu sais pas où il allait. Donc, et donc, il y avait aussi de l'argent donné par le ministère pour Farsha. Donc, Farsha, c'était l'académie. Mais le truc, c'était pourri. Et le truc, il a jamais ouvert. Ça a été, là, de mémoire, moi, je suis arrivé en 2014, je crois qu'il a été fait en 2011. Et il a jamais vraiment ouvert. Donc voilà, donc c'était assez compliqué. Et après, donc, il n'y avait pas de terrain surtout. C'est-à-dire que tu avais un terrain vague. Et ils avaient eu l'argent pour faire des terrains. Pour te dire, le synthétique, parce que la FIFA donnait de l'argent. Il y a un moment, donc c'est au moment où je suis parti, en 2015, ils en avaient tellement marre. Ils ont dit, voilà, OK, on vous a donné de l'argent, OK. Maintenant, vous occupez plus de rien. On fait venir une société, ouais. On fait venir... Et ils ont fait un synthétique.
Okay.
Ils ont fait venir un ingénieur, ils ont récupéré des produits hollandais, de la pelouse hollandaise, toi, et ils ont fait un synthétique. Voilà. Et après, pareil, quand on avait fait la CEMAC, donc c'est le seul titre du Tchad.
C'est le tournoi des pays de Centrafrique.
Tu as la Centrafrique, tu as le Cameroun. C'est Afrique de l'Ouest, en fait. C'est un peu ouest, un peu centre. Bon. Tu as Centrafrique, tu as Cameroun, tu as Guinée équatoriale, tu as le Congo, RDC, le Gabon. En fait, il y a 6 pays. Voilà, voilà. Et le Tchad, c'était le seul pays à ne jamais l'avoir gagné. Donc, il y avait eu 10-12 éditions. Bon, voilà. Même la Centrafrique l'avait gagné. Bon, voilà. Donc, nous, il se trouve qu'on l'a gagné, donc en Guinée équatoriale. Mais au-delà de ça, c'est que la Guinée équatoriale, alors c'est un pays qui a aussi qui a un peu de pétrole, qui a un peu de tourisme, mais ce n'est pas non plus un pays très, très riche. Toi. Sauf que la fédération, ils ont dit, voilà, nous, l'argent que nous donne la FIFA, c'est pour les sportifs. Et ils ont deux centres, un à Malabo et un à... Malabo, et je ne sais plus l'autre ville, ça va me revenir. Et en fait, ils ont un grand centre comme Clairefontaine et tu as un hôtel qui appartient à la fédération. C'est-à-dire que tous les joueurs, les sélections, ils se préparent là-bas.
Et après, donc, t'as eu, quand toi tu es parti, après, ils ont eu 3 ans de
suspension. Ouais, donc suite à ça, donc, il reste des matchs. Après, il y a le Chan, donc ils jouent contre le Gabon. Et le Gabon, on les avait vraiment bougés à la CEMAC. C'était à peu près la même équipe, toi. Et donc résultat. Ils sont éliminés par le Gabon. Et il y a les matchs contre la Tanzanie. Et donc, le match aller, ils perdent 1-0 au Tchad et ils ne sont pas allés au match retour. Parce que les joueurs, pareil. En fait, il a été reproché aux joueurs d'être des mercenaires et tout, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'est que les joueurs, parfois, ils avançaient leur billet d'avion. Et donc là, les joueurs, ils avaient dit, OK, on n'a pas les primes, on n'a pas tout ça, mais payez-nous nos frais. Et donc, bon, il y a eu bras de fer. Il y a eu bras de fer et finalement, les joueurs ont dit, on n'y va pas. Et résultat, ils ont fait forfait, donc suspendu 3 ans.
Ah ouais,
ouais. Ah ouais, quand tu fais un forfait, quand tu joues pas, tu es suspendu 3 ans.
Ah ok.
Donc voilà, c'est bien, c'est normal.
Et je pense qu'en plus, c'est lié, après, tu n'as aucune aide de la FIFA pendant les 3 années. Ça,
ah
ça
ouais, ben bah non, tout est annulé. Ouais.
Et donc là, c'est 3 ans perdu.
Ah ouais, c'est 3 ans où tu n'as rien. C'est 3 ans où tu n'as rien du tout. Tu n'as pas de championnat, donc les équipes de jeunes, ils font rien. Tu as zéro compétition.
Et toi, tu es revenu après ça, ouais, après cette suspension de 3 ans.
Exactement.
Et donc, tu as vu un foot à l'abandon.
Ah bah oui. Bah, la seule chose, c'est que moi, comme je te disais, je suis à la FEC, donc j'étais en contact avec tous les joueurs. Et voilà, j'ai des dossiers, je savais où les joueurs étaient partis, j'étais en contact. Et donc, dès que j'ai repris, en fait, ça s'est fait vite, hein. Quand je suis parti, il y avait un sentiment d'inachevé. Il y avait vraiment un truc à refaire. Je savais que très vite, je pouvais refaire une équipe.
Tu savais que tu arrivais après 3 ans où il ne s'est rien passé.
Où il n'y avait rien du tout. Donc, mais eux, ça ne le comprenaient pas. Et pour la CAN, on joue le Liberia. Donc le Liberia, c'est quand même aussi un pays, Georges Weah. Bon, voilà, ce sont des pays difficiles, des pays durs et tout. Et on se qualifie. On perd 1-0 là-bas, on gagne 1-0 chez nous, on gagne au pénalty. Mais là, c'est la folie.
Il est populaire là aussi.
Ah ouais, mais c'est un truc de fou.
Celui-là, tu te qualifies pour ?
Pour la phase de poule.
Phase de poule.
Mais pas la CAN, mais non. La phase de poule qualificative. Okay. Tu vois. Et il y a une vidéo sur Internet, sur YouTube, si tu marques Tchad, Liberia. Mais c'est un truc de malade à la fin du match. T'as plus personne dans les tribunes. Tout le monde a envahi le terrain. Moi, ils m'ont attrapé. Moi, j'étais en l'air et tout. mais si tu dis, ouais, quand tu vis ça, c'est extraordinaire. Donc, tu te dis, bon, ça va avancer. Toi, c'est génial. Oui, moi, il m'arrive que des trucs. On rentre du Liberia et il y avait une escale au Niger. Et puis, on est sur le tarmac, mais on ne descend pas, toi. Ils nettoient l'avion, machin. Puis, c'est un truc bizarre, toi. Tu vois des gens qui savent faire autour de l'avion. Tu vois des trucs qui arrivent, des militaires, machin et tout. Et on dit, bon, il y a un petit problème, on va repartir plus tard, machin. Et arrivé, tu ne repars pas. C'est-à-dire ton avion, heureusement, il y a un problème. Et heureusement, tu n'es pas reparti parce que... voilà, donc le match, c'était le mercredi au Liberia. Et on jouait le dimanche chez nous, le match retour contre le Liberia, toi. Et donc, on a joué le mercredi, on part le jeudi. Le jeudi, il y a ça. Et toi, tu joues le dimanche. Et tu arrives au Tchad le samedi.
Ah ouais, tes adversaires, ils étaient déjà là-bas.
Ah ouais, ils étaient arrivés avant nous.
Ouais.
Mais tu peux pas t'entraîner parce que on n'a pas les trucs d'entraînement, c'est compliqué, tu peux pas. Et parce que les affaires sont dans l'avion, toi. Donc ils te donnent pas tes bagages, en fait.
C'est fou, c'est que là on parle, on sait ce qui peut se passer dans le foot africain, mais là on parle pas des années 2000 ou des années 80, on parle de 2019.
Ah là c'était.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est la réalité des petites sélections.
Liberia, c'était octobre 2019. Hein.
Et tu le prends, toi, c'est quoi la mentalité que tu as maintenant ? Tu le prends avec le sourire ? Ça te stresse ? Ça t'énerve ?
Non, ça me stresse pas, non. Non, en fait, moi, je suis rarement énervé. La seule chose, c'est que je dis aux joueurs, voilà, si quelqu'un doit s'énerver, c'est moi. C'est-à-dire que, par exemple, au Liberia, ils nous ont fait des trucs. En fait, t'es jamais très, très bien accueilli. Mmh. Après, des fois, c'est bon enfant, mais des fois, c'est pas bon enfant. Toi, au Liberia, et heureusement qu'on s'est qualifié, mais on s'est jamais vraiment entraîné normalement. Mmh. C'est-à-dire que...
Il y a toujours des...
Ouais, le premier terrain où tu vas... t'as tellement de trous que tu dis bah non, moi je m'entraîne pas. Donc ils t'emmènent dans un autre terrain. T'arrives, t'as un match. On te dit non, mais voilà, c'est le match est fini. Mmh. Mais je dis quand ? Bientôt. Mais bientôt, ça voudrait dire. Donc ok, donc on attend trois quarts d'heure. T'arrives, donc t'es en train de regarder le match, t'attends, tes joueurs ils s'énervent un peu. Bon ok, donc tu calmes tout le monde, bon tu prends ça avec le sourire. Et tu commences à installer ta séance et tout. T'as des gens qui rentrent sur le terrain qui virent tes affaires. Ah ouais. Donc on a failli en venir aux mains, tu vois.
Mais il se passe des trucs comme voilà. Ça tout le temps.
Et après, bon, ils te ramènent à l'autre terrain où il y a plein de trous, donc tu t'entraînes pas. Donc tu vas dans la salle de l'hôtel. Ok. Le lendemain, tu dis voilà, moi je vais pas là-bas. Ils t'emmènent dans un autre truc. T'es à une heure et demie de l'hôtel. Mmh. Donc le terrain est bien, tu t'entraînes, mais il fait nuit tôt, t'as pas d'éclairage. Bon.
Et tout ça un peu fait exprès.
Oui,
ça c'est fait exprès.
Ça c'est fait exprès. Après l'avant-dernier truc. Donc l'avant-veille du match. On est dans un terrain parce qu'en plus nous on avait prévu de partir suffisamment de temps à l'avance là, bon, vraiment. Et parce que c'est bien par rapport à... alors des fois c'est pas bien parce que tu subis les choses trop sur
mais
place,
mais t'es un peu opération commando par...
exactement. Et donc après tu vas sur un terrain, t'as des filles qui s'entraînent. Moi j'adore le foot féminin et on me dit non mais elles ont bientôt fini. J'ai dit non, bientôt ça existe pas. Non mais on sait pas quand on arrête. J'ai dit bah si, vous arrêtez tout de suite. Et là je m'étais vraiment énervé là. Même en fait entre eux, si tu veux, ils disent rien. C'est-à-dire qu'ils subissent. C'est Inch'Allah. Donc, non, moi, Inch'Allah, je dis, non, Dieu, c'est pas Dieu qui veut pas, c'est vous qui voulez pas. Moi, Dieu, il veut.
Ouais, tu commences à
monte ça, ouais. Et tout, bon, là, ça va. Mais je redescends très vite. C'est aussi un jeu, si tu veux. T'es obligé un peu de faire ça. De même, il y a encore le noir-blanc, toi.
Ça, c'est, je voulais un peu en parler avec toi, puisque, justement, depuis le début de tous ces podcasts, je reçois beaucoup de... On parle beaucoup de l'Afrique, en fait. Et je voulais savoir... Comment tu le sens, toi, ou comment tu l'as senti dans ton expérience, cette volonté d'avoir un entraîneur blanc, français blanc, ce côté sorcier blanc, tu avais peur qu'on te perçoive justement comme un colonisateur ou
ouais,
au contraire,
ouais, non,
c'est
moi,
quoi un peu ces relations que tu peux avoir avec...
Non, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment-là, et puis ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Puis le côté sorcier, bon, voilà, c'était... Ouais, Claude Leroy, sorcier blanc, machin. Mais moi, je suis vraiment pas du tout là-dedans. En revanche, mes adjoints m'ont dit, et même quand j'ai été la première fois, ils m'ont dit, voilà, on aura plus de choses parce que tu es blanc.
Mais en même temps, c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est grave, c'est triste que tu dises que le blanc arrive et qu'il puisse avoir plus de choses.
Non,
mais c'est une réalité.
Ouais. Et puis, moi, j'ai pas senti un raciste anti-blanc. Toi, bon, parfois dans la rue, t'en as, mais c'est très, très, sincèrement, c'est très, très peu. Mais par contre, c'est entre eux. En fait, si tu veux, en fonction du poste qu'ils ont, mais ils se parlent très, très mal. C'est-à-dire, mais même moi, par exemple, j'ai un de mes adjoints, il avait mal parlé au kiné, mais je lui dis, mais jamais de la vie, tu parles comme ça, toi. Moi, je suis pas pour la hiérarchisation au niveau du staff. Je délègue beaucoup, toi, c'est. Mais c'était un truc qui m'a très surpris. Mais après, je te dis, le côté, ouais, sorcier blanc, tu vois, bon, c'est pas
tu te posais, toi, t'avances, non, t'es là pour... Après, voilà, c'est quoi pour toi les qualités qu'il faut avoir, ou en tout cas, ou les défauts qu'il faut éviter pour entraîner en Afrique?
Non, la première des qualités, c'est l'adaptabilité. Si tu t'adaptes pas, t'es mort. J'ai supporté des trucs... voilà, mais ça se trouve, je les aurais même pas supportés en France, toi. Après, s'adapter, ça veut pas dire subir non plus. Hein. Il y a une fois aussi, pareil, on partait à la CEMAC, donc on avait 22, on partait avec 22 joueurs, le staff et tout. Mais moi, j'avais pas un gros staff. J'avais un adjoint, un entraîneur de gardien, un médecin et un intendant. C'est tout. Ça, c'était mon staff. J'avais pas de kiné, j'avais pas toi, la première fois. Et donc, au moment de partir, deux, trois jours avant, le SG de la Fédé, il me dit, voilà, coach et tout, on a un souci, il faut que tu prennes que 21 joueurs. Mais j'ai dit, comment ça? Il me dit, oui, parce que par rapport au billet d'avion, on a un dirigeant qui veut y aller et tout. Je lui dis, non. Il me dit, ouais, mais si, coach, je te comprends, parce que là, il mérite d'y aller et tout. J'ai dit, mais moi, mes joueurs, j'en ai besoin de 22. Et il me dit, ouais, mais non, coach, ça va pas être possible. Je lui dis, ok, c'est ce qu'on va faire, c'est que moi, j'y vais pas. Comme ça, le billet d'avion, tu prends le mien, vous récupérez et tout. Elle me dit, mais non, coach, on peut pas faire ça et tout. Je dis, mais si, on peut faire ça. Bon, résultat, on est parti à 22, toi. Bon, voilà.
Et, Et maintenant, ils sont suspendus combien de temps ? On ne sait pas trop là.
C'est pour l'instant, ce n'est pas fait, mais généralement, c'est 3 ans.
Et ça, tu trouves, c'est pas un peu exagéré, 3 ans tout de suite, quand, avant de discuter, je ne sais pas.
Ouais, oui et non, mais après, quand c'est récurrent. Ouais. Mais c'est, ça a aussi valeur d'avertissement, c'est-à-dire ouais. Pour les autres pays, de dire voilà. Faites pas ça parce que, bon, alors même si après, parfois, tu as des décisions qui sont pas forcément toujours, voilà, à faute égale, la décision n'est pas toujours pareille. Toi, par exemple, à un moment, il y a eu un problème avec le Cameroun et les Comores, dans un groupe, et en fait, le Cameroun devait organiser la CAN, et finalement, elle a pu organiser. Et quand tu es comme ça, normalement, tu fais pas la CAN.
Okay.
Mais le Cameroun a fait la CAN quand même, et les Comores ne se sont pas qualifiés. Toi. Là, j'espère qu'ils vont se qualifier là.
Ouais. Ça serait une première, c'est ça ?
Ouais, et ça c'est aussi, c'est une personne que ce serait intéressant que tu aies, parce que c'est quelqu'un, Amir Abdou, qui est depuis 2014,
okay.
Et qui est comorien, mais qui est donc sélectionneur, mais qui lui vit en France.
Okay.
En fait, il ne va en Comore que quand il y a une réunion importante
et ou un match. Bien.
Et ça marche bien.
Après, on va arrêter de toute façon, parce qu'il y a mille choses à dire.
Ouais, non, c'est pichu bavard.
Non, c'était génial. Parce que justement, Ludovic Debruy me disait, le savoir-faire français... Il n'y a pas vraiment... Le savoir-faire, c'est la continuité et la transmission qu'il y a depuis 50 ans, depuis 60 ans d'informations, et il n'y a pas de rupture.
Ah, c'est ça.
Et là, toi, tu me parles, et c'est justement des pays où il y a des grosses ruptures.
Mais toi, par exemple...
Tu vas recommencer de zéro.
Ah ouais, c'est clair. Et là, celui qui reviendra après, il recommencera de zéro. Parce qu'en plus, tu sacrifies des générations, parce que tu as des joueurs là qui... On a, sincèrement...
Tu n'es pas très optimiste pour l'avenir du foot tchadien.
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que sincèrement... Sans parler de moi, mais quelle que soit la personne qui aurait fait le même travail, l'investissement, le travail, la formation sur les éducateurs de la sélection, les jeunes, non, c'est un truc, la base de données. Et quand tu te dis que voilà, un problème d'ego entre personnes, de lutte de pouvoir, de lutte financière, te fait tout arrêter. Tu te dis bon voilà, c'est. Moi, je sais qu'il y aura pas de troisième fois, par exemple. Sincèrement, je suis vraiment triste parce que c'est... Moi, tu sais, quand je... Parfois, bon, des fois, c'était aussi houleux avec des gens et tout. Puis quand... parce qu'il y a eu aussi, pour détruire la fédération, il y a eu aussi un gros lobbying sur les réseaux sociaux de gens qui racontaient n'importe quoi, toi, mais vraiment des aberrations, moi... Mais j'ai vu même entendre que j'avais pas de diplôme, que c'est moi qui prenais l'argent des équipements, que si, que ça. Bon. Mais des trucs vraiment fallacieux. Et donc la même chose sur les gens de la fédération. Donc ça a vraiment pas aidé les choses, tu vois. Et à l'arrivée, tu te dis que pourquoi ça progresserait, toi? Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc oui, la fédération, c'était pas parfait, mais il y avait un travail vraiment ensemble à faire. De toute façon, le mot d'ordre, c'est ensemble. Hein. Tout seul, tu fais rien, hein, quelles que soient tes occupations, ton milieu, n'importe quoi. Donc bon, c'est dommage. Mais...
Et pour finir, juste maintenant, donc tu es revenu et là, tu viens d'être élu...
Ouais, à l'UNECATEF. En fait, c'est le syndicat des entraîneurs. En fait, moi, comme je te disais, je me considère toujours un petit peu à part. Voilà, je suis un peu hors norme. Déjà, mon parcours, déjà, mon mode de réflexion, de fonctionnement. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose... je veux toujours être force de proposition. C'est-à-dire que si j'amène rien, ça ne sert à rien. Je n'y vais pas pour être président, je m'en fiche complètement. Mais il y a plein de choses qui me déplaisent. Et le fait d'être à l'UNICATEF, après, tu es dans des commissions à la fédération. Et là, tu as un pouvoir de parole. Et puis voilà, je vais voir comment ça se passe. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les 19 membres, on est 10 nouveaux. Et sur les 10 nouveaux, il y a Philippe Montagnier qui est de Caen, il y a Didier Lacombe, avocat, qui est de Caen, il y a Nasser Larguet qui est à Marseille, qui est de Caen, et moi qui suis de Caen. Et Richard Désiré qui est normand. Et on se connaît, donc voilà.
Si ça, c'est pas une mafia.
C'est la mafia des Normands.
Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ?
La même vie que j'ai toujours eue, c'est-à-dire vivre de ma passion et puis de garder la flamme. Et puis voilà, puis je vieillis un peu, donc moi j'ai envie de rendre au foot ce que le foot m'a apporté.
Bon, très bien. Merci Emmanuel.
Merci à toi.
Pour tes récits, pour nous avoir fait connaître un peu le Tchad. Et...
Ouais. Moi, dès que je peux parler de ma passion et puis essayer de la faire partager, je pense que ma façon de parler, et puis on voit que je suis passionné et que j'aime ça. Donc, c'est toujours un grand plaisir.
Ok, merci beaucoup et à très bientôt. Et on suivra tes aventures à l'UNICATF et la suite de tes aventures en tant qu'entraîneur.
C'est très gentil. Ouais, merci beaucoup.
Merci.
On sent qu'Emmanuel est tiraillé dans cette expérience. Une part de lui a adoré cette aventure humaine, improbable, ponctuée de rencontres géniales. Une autre est frustrée de ne pas avoir fait davantage avancer les choses. Son seul objectif en acceptant ce challenge était de transmettre son savoir et sa passion pour améliorer les choses sur place et aider les joueurs tchadiens. Aujourd'hui, il n'a aucun regret et il continue à avancer. Merci encore Emmanuel pour cet échange et Inch'Allah, on se recroisera bientôt. Voilà, vous venez d'écouter le 11e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.